Chapitre 4. À son arrivée à Moulins, Mademoiselle du Rosier trouva Louise un peu pâlie par la retraite où elle vivait. Svelte, blanche, élancée, le front rêveur et comme doucement voilée par l'habitude du silence et de la prière, elle ressemblait à ces vierges de marbre dont les artistes du Moyen-Âge inclinaient les mains pieuses au-dessus des bénitiers. Alexandrine obtint facilement de Madame de Fougerolles l'autorisation d'amener Louise à la Bertoche. Évariste promit de s'y rendre de son côté, et le printemps les réunit tous trois dans cette solitude. Le premier jour qu'il les vit ensemble, Mademoiselle du Rosier était comme enivrée. Elle prit Évariste et Louise par la main et se mit à courir dans les avenues du parc. « Ah ! » dit-elle, « je respire enfin !»« Si vous vouliez, » dit Évariste, « vous respireriez toujours. » Alexandrine lui montra une hirondelle qui traversait le ciel. Pourquoi cette hirondelle ne reste-t-elle pas dans ce coin bleu du ciel ? Dit-elle. Évariste demeura jusqu'à la fin du mois au château. Jamais Mademoiselle du Rosier n'avait été pour lui si tendre et si charmante. On eût dit qu'elle voulait le consoler du mal qu'elle lui avait fait. La fête de Madame de Fougerolles tombait dans les premiers jours de juin. Mademoiselle du Rosier, qui ne prenait plus conseil que d'elle-même pour tout ce qui avait trait à la vie intérieure, décida que cette fête serait célébrée avec un certain éclat. La vanité de la baronne y trouvait son compte. Elle consentit à ce que voulait sa nièce, en lui recommandant seulement de ne pas faire de folie. Parmi les invités, le nom de Monsieur de Mauvezin fut inscrit l'un des premiers. Mademoiselle du Rosier ne l'avait pas prononcé, et cependant il était en tête de la liste. « Tu danseras avec lui la première contredanse, petite, » dit Madame de Fougerolles. « Volontiers, » répondit-elle. Évariste la regarda. « Je ne comprends pas que vous ayez pu lui pardonner, » dit-il à Mademoiselle du Rosier quand ils furent seuls. « Et qui vous dit que je lui ai pardonné ? » répliqua-t-elle de cet air hautain qu'elle avait quelquefois. Évariste cacha son visage entre ses mains. « Vous êtes impénétrable, » reprit-il. Elle sourit et l'attirant doucement vers elle. « Quoi qu'il arrive et quoi que je fasse, » dit-elle, « rappelez-vous bien ceci, je n'oublie jamais rien. » L'expression du regard qu'elle lui jeta en se retirant était si singulière qu'Évariste la suivit longtemps des yeux. « Quel aimant a-t-elle donc ? » pensa-t-il. « Je souffre toujours quand je la vois et je ne puis m'empêcher de l'aimer toujours. » Le lendemain, Évariste annonça à Mademoiselle du Rosier qu'il allait partir pour un long voyage, sa présence lui paraissant inutile au fait dont les préparatifs se faisaient sous ses yeux. « Eh bien, dit-elle, promettez-moi, quoi que vous appreniez, et dans quelques circonstances que ce soit, de revenir aussitôt que je vous appellerai. Quelque chose me dit que j'aurai besoin de vous. »« Dieu le veuille, » répondit Évariste. Ils se séparèrent. Elle monta sur son balcon pour le voir encore, tandis qu'il descendait la côte au bas de laquelle passait le chemin. Il lui semblait que c'était l'ombre de sa jeunesse qui s'en allait. Une angoisse indéfinissable remplissait son cœur. Elle revit en esprit tous les jours d'autrefois et fut prête à lui crier de revenir. Mais au détour du sentier, il disparut derrière un rideau d'arbres. Ses bras, qu'elle avait levés, retombèrent à ses côtés. « Allons, » dit-elle, « il faut penser à demain. » Quelques mots surpris dans une conversation avaient fait croire à Mademoiselle du Rosier que Madame de Fougerolles avait prêté l'oreille à un projet de mariage. Elle voulut en avoir le cœur net, et profitant de la présence de Monsieur Deschapelles au château, elle le prit à part et l'interrogea, pensant qu'il pourrait bien être l'auteur du projet. « Qu'avez-vous donc à chuchoter là-bas ? » dit Madame de Fougerolles, qui lisait dans un coin. Mademoiselle du Rosier se pencha vivement vers Monsieur Deschapelles. « Êtes-vous de mes amis ? » dit-elle tout bas. « Oui, certainement. »« Eh bien, ne me démentez pas. » Et se tournant du côté de sa tante, « Savez-vous bien ce que ce cher notaire me proposait ? » dit-elle. « Non, un mari. »« Ah ?» Cette « ah » exprimait plus d'embarras que d'étonnement. « Bon, » pensa Mademoiselle du Rosier, « le projet vient de ma belle tante. »« Eh bien, qu'en dis-tu ? » reprit Madame de Fougerolles. « Je dis que M. Deschapelles se moque de moi. »« Et pourquoi donc ? » ?»« Eh mon Dieu, ma chère bonne tante, parce qu'une fille sans dot n'est pas une merveille à faire courir les gens. » aussi longtemps que vous voudrez bien me continuer votre affection, tout ira pour le mieux. Mais si quelque jour vous me manquez, la nièce sans la tante sera un maigre parti. Tu es trop modeste. Et vous, chère tante, reprit Alexandrine en riant, vous êtes beaucoup trop bonne. On n'a pas vos yeux pour me voir. Une seule personne a demandé ma main. C'était au temps jadis. On voulait bien la lui accorder, mais cette personne a appris que j'étais ruinée, et mon fiancé court encore.
Comment l'appelles-tu, ce fugitif ? Demanda madame de Fougerolles, égayée par le tour que prenait la conversation.
Monsieur de Mauvezin.
Mon Dieu, j'avouerai bien franchement qu'il me plaisait. Ce mari me semblait fait tout exprès pour moi. Je parle d'autrefois. Mais à présent, il n'y faut plus penser. Monsieur de Mauvezin est un homme avisé. Une bonne âme, qui me veut du bien, lui a parlé de moi dernièrement. Oh, il ne m'avait pas oublié.
Mademoiselle du Rosier, a-t-il dit, je l'aime beaucoup, mais elle n'a rien.
Elle a sa tante, madame de Fougerolles. C'est ce que je voulais dire, a-t-il repris.
Madame de Fougerolles tressaille.
Oh, la fine mouche, pensa le notaire.
Ah, il a dit cela,
s'écria la baronne.
Oh, il ne faut pas lui en vouloir, continua mademoiselle du Rosier. Le mot est amusant et j'en ai ri, moi, qu'il n'intéresse plus que personne. Or, étant bien décidé à ne pas prendre pour mari le premier venu, et monsieur de Mauvezin courant toujours, j'ai renoncé bravement au mariage.
Tu te presses beaucoup, murmura madame de Fougerolles.
Les choses en restèrent là jusqu'au moment des fêtes pour lesquelles monsieur de Mauvezin était invité. 7 ou 8 personnes étaient déjà au château quand il y arriva. Mademoiselle du Rosier en faisait les honneurs avec sa tante. La position qu'elle avait prise et l'affection que lui montrait madame de Fougerolles avaient singulièrement modifié les idées à son sujet. Le temps n'était plus où elle portait une méchante robe de laine noire. Le lendemain de son retour à la Bertoche, Alexandrine avait trouvé dans sa chambre des étoffes d'été et des toilettes que sa tante avait fait venir de Paris pour sa nièce. Sans se départir d'une extrême simplicité, elle adopta des formes et des couleurs plus en harmonie avec son âge. Ce fut comme une transformation, et la grande question de son mariage, qui si longtemps avait excité la curiosité des oisifs de Moulins, fut encore une fois agitée dans les réunions. Monsieur de Mauvezin ne fut pas le dernier à s'apercevoir de ce changement, et il prit occasion de l'intimité qui résulte du séjour à la campagne pour donner à son langage un tour plus tendre et plus vif. Mademoiselle du Rosier le connaissait trop bien à présent pour ne pas démêler les motifs de cet intérêt si pressant, mais elle se garda bien de lui laisser voir qu'elle le comprenait à demi-mot. Rien ne parut changer dans son attitude, peut-être même parut-elle moins attentive et moins désireuse de causer avec lui. Elle était aimable et prévenante, mais comme une maîtresse de maison qui pense à ses hôtes, et non pas comme une jeune fille heureuse et troublée de la présence d'un homme qu'elle a aimé. Cette nuance n'échappa pas à monsieur de Mauvezin. Il chercha un rival autour de lui et n'en trouva pas. Il pensa qu'elle attendait une occasion pour faire un choix, ou bien encore qu'elle était fiancée à un inconnu qu'on verrait arriver tout à coup à la Bertoche. Sa perplexité augmentait chaque jour. Il essaya de sonder le vieux notaire, mais il avait affaire à plus fort que lui. Monsieur Deschapelles aimait mademoiselle du Rosier à sa manière. Il fit le mystérieux et parla de l'avenir en termes vagues qui ne précisaient rien, mais permettait de tout espérer. L'entretien fini, monsieur de Mauvezin regretta vivement de ne s'être pas ouvert à mademoiselle du Rosier pendant leur séjour à Paris. Comment n'avait-il pas compris que l'héritière qu'il cherchait depuis si longtemps, il l'avait sous la main? Il le regrettait d'autant plus que mademoiselle du Rosier produisait alors sur lui une impression dont il ne démêlait ni l'étendue ni la profondeur, et qu'il n'avait pas encore ressentie. Elle ouvrait son esprit à des sensations qu'il ne connaissait pas et l'initiait en quelque sorte à un ordre de pensée auquel, dans sa vie un peu creuse et mal servie par une intelligence paresseuse, il ne s'était jamais arrêté. La fatuité, l'égoïsme, une sorte de finesse, ou pour mieux dire, de méfiance provinciale, dont il ne s'était pas défait à Paris, protégeaient de leur mieux monsieur de Mauvezin, et le défendait contre les séductions de toute nature qu'on voyait chez mademoiselle du Rosier. Il était comme un chevalier bardé de fer qu'une troupe d'archers assaille de 1000 traits. L'armure résiste et le chevalier tient bon, mais un trait atteint le défaut de la cuirasse,
un autre glisse entre les mailles de fer, et bientôt l'homme invulnérable sent à ses blessures qu'il est criblé de coups. Monsieur de Mauvezin en était là. La supériorité de Mademoiselle du Rosier et la grâce avec laquelle elle en voilait à demi les apparences étaient comme un sel pour cet esprit pauvre et blasé. Il semblait découvrir qu'il y avait autre chose que la dot chez une femme et que la richesse dans la vie. Au bout d'un mois ou deux de séjour à la Bertoche, M. de Mauvezin ne parlait pas encore de partir. Un jour qu'il marchait à grands pas dans le parc cherchant Alexandrine, Madame de Fougerolles, qui était assise avec sa nièce au pied d'un arbre, la poussa du coude. « Dis donc, petite, il me semble qu'il ne court plus tant, le fugitif, » dit-elle. Mademoiselle du Rosier jeta un coup d'œil du côté d'Anatole. « Oh, je m'en suis bien aperçu, » dit-elle en riant. « Il ne tiendrait même qu'à moi de jouer au naturel une scène de comédie. Rien n'y manquerait, ni la chaise de poste, ni le postillon, ni l'échelle de corde, ni la fuite. » « Que veux-tu dire ?»«
Rien que de fort simple. Monsieur de Mauvezin s'est ravisé de me trouver à son goût et j'imagine qu'un enlèvement ne lui déplairait pas trop. »«
Est-il possible ?» s'écria la baronne. « Un enlèvement ? Il t'en a parlé ?»«
Il ne l'a pas fait en termes clairs et précis, mais on sait ce que parler veut dire, et cela prouve tout au moins qu'il m'aime. »«
Comment ?
Tu ne t'es pas indigné ? Proposer un enlèvement à une fille de ta condition, comme s'il n'y avait plus ni mère ni curé pour se marier. »
Mademoiselle du Rosier se mit à rire.
« Certainement, le mariage serait un dénouement plus convenable, » dit-elle. « J'y gagnerais un mari, et monsieur de Mauvezin y gagnerait une tante alliée aux premières familles du pays. On vivrait honnêtement près de vous, on vieillirait ensemble, et l'on s'arrangerait de manière à n'être pas trop malheureux. » Au premier coup d'œil, la chose semble toute naturelle. Et voilà M. Deschapelles qui signerait volontiers au contrat. Malheureusement, il n'y aurait pas de contrat. Et de bonne foi, que voulez-vous que M. de Mauvezin fasse d'une grande fille qui lui apportera son cœur en dot comme une héroïne de romance? C'est très joli en musique, ces choses-là, mais cela n'a jamais suffi en ménage, et un conseiller à la Cour des comptes est en droit de le savoir mieux que personne.
Mais enfin, j'ai 3 millions en bonne terre et tu es ma nièce, s'écria Mme de Fougerolles avec explosion. Un éclair passa dans les yeux de Mademoiselle du Rosier.
« Tiens, » dit-elle, « il faut croire qu'il n'y a pas pensé. »
Et elle s'inclina sur la main de la baronne pour la baiser. Madame de Fougerolles jeta ses bras autour du cou d'Alexandrine et l'attira sur son cœur.
« Tu ne me quitteras jamais, » dit-elle.
Une certaine émotion parut sur le visage de Mademoiselle du Rosier.
« Je vous le promets, » répondit-elle d'une voix sérieuse.
Le grand mot avait été dit. Mademoiselle du Rosier, adoptée par Madame de Fougerolles et proclamée son héritière, il ne s'agissait plus que de décider M. de Mauvezin à se déclarer, et il n'y avait pas là de grandes difficultés à vaincre. La crainte seule d'un refus le retenait. Il ne pouvait s'empêcher de penser la lettre qu'il avait écrite, et il avait peur. Chez un homme gâté par des succès de province, et aussi infatué de son mérite que l'était M. de Mauvezin, la peur était un signe d'amour irrécusable. M. Deschapelles se chargea de lui parler.
Ça, lui dit-il avec une brusquerie affectée, il faut s'entendre. Vous êtes comme le lion de l'Évangile. Vous rôdez autour de la Bertoche et l'on sait quelle proie il y a à dévorer.
M. de Mauvezin rougit malgré son aplomb ordinaire.
Or, Madame de Fougerolles ne veut pas que sa brebis soit enlevée, reprit le notaire. Elle a peur de vos dents, qui en ont croqué bien d'autres. Mais avec qu'il faut se prononcer. Il y a des prétendants en campagne. C'est un escadron, ce sera bientôt un régiment. La fille ne dit rien, mais vous savez le proverbe. À fille qui se tait, le diable parle. Ce silence est donc pour quelqu'un. Si vous êtes curieux, prenez vos informations. Si vous ne l'êtes pas, il faut laisser la place à de plus madrés.
Eh bien, dit M. de Mauvezin, j'interrogerai Mademoiselle du Rosier. Il le fit le jour même. Alexandrine le laissa s'expliquer sans l'interrompre, jouant à demi la surprise.
« À vous parler franchement, dit-elle, je ne m'attendais pas à cet aveu. Vous m'en voyez un peu étonné, au point même que si un autre que vous me parlait en votre nom, je ne le croirais pas. »
M. de Mauvezin se troubla tout à fait. Il essaya de répondre et balbutia une phrase dans laquelle on distinguait les mots d'amour sincère, de dévouement et de regret. Si, comme je le pense, votre demande part d'une résolution bien arrêtée, reprit mademoiselle du Rosier, qui jouissait de son embarras, permettez-moi de réfléchir. Un mariage vaut bien la peine qu'on y pense quelques jours. Monsieur de Mauvezin s'inclina. Un secret espoir, quelques inductions qu'il avait tirées des ouvertures de monsieur Deschapelles, son extrême fatuité, qui ne dormait jamais qu'à demi, un peu aussi la manière dont mademoiselle du Rosier l'avait accueilli à Paris, lui avait fait croire que les choses iraient plus vite. La réponse évasive d'Alexandrine le laissa dans une grande inquiétude, et le chagrin réel qu'il en éprouva lui fit comprendre qu'il l'aimait plus sérieusement qu'il ne l'avait pensé d'abord. Il crut Alexandrine perdue pour lui. S'il l'avait aimée, n'aurait-elle pas accepté sur le champ? Mademoiselle du Rosier garda le silence le plus absolu pendant toute une semaine. Elle voyait Anatole chaque jour, à toute heure, et affectait de parler de choses indifférentes avec la même gaieté. Il semblait que rien ne la préoccupât. Monsieur de Mauvezin avait beau l'observer, il était impossible de savoir ce qu'elle pensait. Avec lui, elle était polie toujours, quelquefois avenante, jamais troublée. Elle ne fuyait pas plus le tête-à-tête qu'elle ne le recherchait. Deux ou trois fois, monsieur de Mauvezin, en l'entendant discuter des projets de voyage, put croire qu'elle avait entièrement oublié la demande qu'il lui avait faite. Cette situation, toute nouvelle pour lui, mêlée au mouvement d'un amour d'autant plus vif qu'il était plus inquiet, devint un supplice de tous les instants. Le 12e jour, ne pouvant plus en supporter la violence, il supplia mademoiselle du Rosier de vouloir bien s'expliquer. « C'est fort délicat, » dit-elle. « Madame de Fougerolles m'aime beaucoup, certainement. Cependant, je ne sais rien de ce qu'elle compte faire à l'occasion de mon mariage. » « Eh, mademoiselle, que m'importe ? » s'écria monsieur de Mauvezin. « Vous êtes tout pour moi. »« Hein ? » fit-elle avec un singulier sourire. Pendant un instant, l'angoisse de monsieur de Mauvezin fut inexprimable. Cette fois, la parole avait été plus prompte que la réflexion. Peut-être le lendemain se serait-il repenti de ce qu'il avait dit, mais alors il avait obéi à la première impulsion. « Eh bien, reprit mademoiselle du Rosier, s'il en est ainsi, parlez à ma tante, j'y consens. » Mademoiselle du Rosier avait l'attitude d'une reine, mais monsieur de Mauvezin ne vit que son triomphe, et dans l'excès de sa joie il ne perdit pas une minute pour faire sa demande à madame de Fougerolles. Le consentement fut accordé le soir même. Monsieur Deschapelles, mandé à la Bertoche dès le lendemain, s'enferma dans le cabinet de la baronne avec laquelle il travailla toute l'après-midi. Retenu à dîner, il s'approcha de mademoiselle du Rosier pour lui faire son compliment, mais le malin vieillard la regardait en riant par-dessus ses lunettes. « Bien joué, » lui dit-il tout bas. « À présent, il faut voir le cinquième acte. » Mademoiselle du Rosier lui rendit regard pour regard, mais sans répondre. Le soir, elle écrivit à Évariste pour le prier de revenir au plus tôt. « J'ai pris une grave résolution, mon ami, » lui dit-elle. « Je vais me marier. Mais dans cet instant qui décidera de ma vie entière, je veux vous avoir près de moi. Donnez-moi cette preuve suprême d'affection. Il me semble que je marcherai plus heureuse vers l'autel si ma main a pressé la vôtre. Venez donc, Évariste, je vous attends. » La première fois que mademoiselle du Rosier reparut dans Moulins en calèche, ayant à son côté madame de Fougerolles et devant elle monsieur de Mauvezin, elle éprouva une émotion indéfinissable, où l'orgueil entrait pour une large part. Tous les yeux la suivaient. Elle avait la fièvre, et dans le fond de son cœur, elle se rappelait le jour où elle était partie, pauvre, repoussée et tout entière à la merci d'une tante qui ne l'aimait pas. Elle avait caché dans une poche de sa robe la lettre que monsieur de Mauvezin lui avait écrite jadis, et trouvait un plaisir âpre et singulier à la sentir sous ses doigts. Alexandrine se fit descendre au couvent de sa sœur et lui fit part de sa détermination. « Monsieur de Mauvezin, tu épouses monsieur de Mauvezin, mais Évariste ! » s'écria Louise. « Évariste ? Eh bien, je l'attends. Crois-tu donc que je veuille me marier sans lui ? Ah, monsieur de Mauvezin ne t'aimera jamais comme Évariste. » Alexandrine sourit fièrement. « Sois tranquille, » reprit-elle, « il m'aime déjà. » Mais quand elle pria Louise de la suivre à la Bertoche pendant les jours qui devaient précéder son mariage, il fut d'abord impossible de l'y décider. Louise déclara qu'elle était résolue à prendre le voile. Son visage n'exprimait ni regret ni découragement. on y voyait plutôt l'expression mystique d'une âme qui cherche dans la prière son repos et son esprit. Alexandrine insista cependant. « Donne-moi quelques jours, » dit-elle à Louise. « C'est une dernière preuve d'amitié que je te demande. Peux-tu ne pas être près de moi quand je vais me marier ?»«
Je ferai ce que tu voudras, » répondit Louise, revenue à ses habitudes de soumission.
Et comme Alexandrine sortait,
« Songe à lui, » reprit-elle doucement.
À quelques jours de là, Mademoiselle du Rosier reçut une lettre d'Évariste. Elle ne contenait que ces mots. « Ces deux lignes ne me précéderont que de 24 heures. Partout et toujours, je suis à vous. » Il avait été décidé que le mariage de Mademoiselle du Rosier et de M. de Mauvezin aurait lieu à la fin du mois. On n'était plus séparés que par un petit nombre de jours. Madame de Fougerolles voulut qu'un grand éclat entourât cette cérémonie. Toute la noblesse du département fut invitée, et l'évêque promit d'officier en personne sous les voûtes de Notre-Dame de Moulins. Un soir, Alexandrine trouva sous sa serviette un écrin renfermant des diamants de famille et les clés de l'hôtel qu'elle avait si longtemps habité au temps de sa première splendeur. « Tu m'y garderas ma chambre, » lui dit Madame de Fougerolles avec une exquise distinction. Évariste était le seul qui resta triste au milieu de toutes ses joies. Il assistait en silence à sa propre immolation. Sa présence au château de la Bertoche avait d'abord excité un peu de surprise. Personne dans Moulins n'ignorant quelle avait été sa situation auprès de Mademoiselle du Rosier. Mais les esprits forts haussaient les épaules. « Bois, » disait-il, « tout passe. » Il se trouvait cependant d'autres personnes qui ne croyaient pas à cet oubli. Monsieur Deschapelles s'amusa même à demander à Monsieur de Mauvezin s'il ne redoutait rien de cette secrète rivalité. Anatole sourit. « Lui, un rival, » dit-il avec des airs de gentilhomme, « le pauvre Évariste. » Néanmoins, un observateur attentif aurait pu remarquer que Mademoiselle du Rosier n'agissait pas en toute occasion avec Monsieur de Mauvezin comme avec un fiancé qu'on a librement choisi. On voyait parfois en elle une hauteur, une amertume, un dédain, quelque chose d'altier et d'irrité qui donna fort à penser à Madame de Fougerolles. « As-tu quelque chose à reprocher à Monsieur de Mauvezin ?» lui dit-elle. « Non, » dit Alexandrine. « Vois-tu, petite, si tout ne va pas comme tu le désires, tu n'as qu'à parler, et il aura affaire à moi. « Oh, pour cela, je suffis, » répondit-elle. Madame de Fougerolles dressa l'oreille. La voix de Mademoiselle du Rosier était alors pareille à celle qu'elle avait entendue à diverses reprises et qu'elle ne pouvait pas oublier. « Il y a quelque chose, » pensa-t-elle. Un soir, que l'on faisait de la musique, M. de Mauvezin pria Mademoiselle du Rosier de chanter la captive de Reybert. « C'est singulier, » répliqua-t-elle à demi-voix et avec un petit rire aigu. « Depuis que vous avez pris cette mélodie en affection, elle m'est devenue insupportable. » Le visage de M. de Mauvezin se troubla, tandis que Mademoiselle du Rosier s'éloignait. Elle était ce soir-là d'une beauté radieuse. Quand elle fut auprès d'Évariste, elle rencontra les yeux d'Anatole tout humides de larmes. « Je suis vengée, » dit-elle, « il m'aime. » Évariste n'entendit que ces derniers mots. « Eh bien, » dit-il, « s'il vous aime, vous êtes heureuse, je n'ai rien à faire ici. » Alexandrine lui jeta un regard dont la pénétrante douceur l'enveloppa tout entier. « Restez, » dit-elle. Le lendemain, on devait présenter officiellement M. de Mauvezin aux amis de la famille. Il y avait nombreuses et brillantes réunions à la Bertoche. Mademoiselle du Rosier était tout en blanc, mais elle était plus pâle que la mousseline de son corsage. On ne voyait dans son visage que ses yeux, qui brillaient comme du feu. M. de Mauvezin la couvrit de ses regards quand elle entra. « Enfin, » dit-il en lui offrant son bras. « Oui, enfin, » répondit-elle. Son accent surprit Madame de Fougerolles. « Tu as la fièvre, mon enfant, » dit la baronne. Alexandrine, sans répondre, passa son bras sous celui de M. de Mauvezin. « Voulez-vous me donner 5 minutes ?» lui dit-elle. « J'ai quelque chose encore à vous rappeler. » Madame de Fougerolles, qui était d'une gaieté charmante, la menaça du doigt. « Déjà ? » fit-elle. « Que sera-ce donc quand il sera ton mari ?» Quand ils furent seuls, Mademoiselle du Rosier ouvrit un petit coffret qu'on voyait sur la cheminée du cabinet où elle avait conduit M. de Mauvezin. « Vous souvient-il d'une lettre que vous m'avez écrite l'an dernier après la mort de mon père ?»« Ah, mademoiselle, vous êtes cruelle !» répliqua M. de Mauvezin. J'en ai reçu une autre, il y a 8 jours. Celle-là est d'Évariste. Les voici, toutes deux. Regardez-les, et dites-moi, après les avoir lues, si l'on peut hésiter entre vous. »
Monsieur de Mauvezin tressaillit comme s'il avait été mordu par un serpent.
« C'est une trahison ! »
s'écria-t-il.
« C'est une réponse ! »
dit-elle avec force.
« Vous pouvez maintenant demeurer aussi longtemps qu'il vous plaira au château, où Madame de Fougerolles vous a invité. Mais vous me connaissez assez à présent pour savoir que jamais je ne porterai votre nom. »
Alexandrine rentra seule au salon.
« Et ton mari ? » demanda Madame de Fougerolles.
Mademoiselle du Rosier prit la main d'Évariste.
« Le voilà ! »
dit-elle.
Deux cris de joie lui répondirent, et Mademoiselle du Rosier se trouva dans les bras de sa sœur. L'assemblée entière s'était levée.
Madame de Fougerolles, toute interdite, regardait partout, cherchant Monsieur de Mauvezin.
« Mais pourquoi ? »
dit-elle enfin.
« Pourquoi ? » répondit Mademoiselle du Rosier en brûlant à la flamme d'une bougie une lettre qu'elle tenait à la main. « À présent, je puis l'oublier. »
Ainsi s'achève, de cette manière abrupte mais réjouissante, Mademoiselle du Rosier d'Amédée Achard.